Mais qu'est-ce que c'est, au juste, la démocratie à l'heure de nos manifestations du samedi plus ou moins réprimées, de ce Brexit au Royaume-Uni plus ou moins assumé, ou de ce shutdown aux États-Unis qui bloque le gouvernement et que d'aucuns critiquent comme un déni de démocratie? Qu'est-ce que c'est, la démocratie? Est-ce que c'est le règne du nombre, comme le laisse croire très souvent le pouvoir? On a gagné l'élection, vous l'avez perdu, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vraie question. Est-ce que vous saviez que les Grecs, qui l'ont inventé, la démocratie, ne dissociaient pas le principe de l'amitié et celui du conflit? Philia et Eris étant deux idées complémentaires qui font la vie dans la cité, l'une n'allant jamais sans l'autre. C'est intéressant de le rappeler parce que ça dessine une autre définition de la démocratie qui ne saurait exister sans opposition. C'est même, pour aller plus loin, la possibilité d'une opposition, d'une contradiction, voire d'un conflit qui fait la démocratie, qui en est la garantie. Et on peut se demander, parce qu'on en a encore le droit, en France, comme aux États-Unis ou au Royaume-Uni, qui bloque quoi? Qui joue contre qui? Qui est dans un déni de démocratie?
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. À quoi mon invité d'aujourd'hui résiste-t-il? Artiste pluridisciplinaire, c'est par la musique qu'il s'est révélé au grand public. Demain sort son 23e album, Même pas sommeil, et bientôt un recueil de poèmes inchantables. De quoi accompagner vos nuits blanches et vous faire chanter, ce qu'on va faire évidemment. Bonjour Charles Alicoutia.
Merci de m'inviter. Tôt le matin, comme ça, ça me fait, donne l'occasion de voir le jour se lever, c'est formidable.
Merci d'être là. Avant toute chose, vous qui avez vécu dans ces deux grandes démocraties que sont la France et les États-Unis, est-ce que ce ne serait pas par la possibilité de la résistance qu'elle s'incarne le mieux, la démocratie justement?
Ben, disons que moi j'ai été élevé par un père qui avait fait de la résistance et donc qui n'accordait de valeur qu'aux choses acquises dans l'effort. Donc quelque chose, la soumission c'était quelque chose de veule. Donc même face à lui qui était un homme assez autoritaire, il fallait argumenter. Et c'est comme ça que je me suis construit. Quelquefois, être contre, entre guillemets, c'est je trouve que ce que les Français ont développé le mieux, le principe de l'antithèse. Parce que c'est comme ça qu'on a été élevé dans une dissertation à la française, c'est la thèse qui était donc imposée par le maître, l'antithèse que tu vas inventer, là tu vas t'éclater dans l'antithèse, puis la synthèse, alors là bon, éventuellement les gens...
Et puis on n'a pas le temps souvent, donc on la termine par la synthèse, on reste dans l'antithèse, mon cher Charles Lely. Lorsque je vous ai demandé de réfléchir à un sujet d'actualité, bah vous avez choisi le shutdown aux États-Unis, pourquoi?
Oui, parce que actuellement, on se trouve face à un tyran quand même, un homme qui nourrit les sportifs avec des nourritures industrielles froides, servies en boîte, et qui félicite ceux qui injurient les Indiens qui ont fait la guerre du Vietnam. Enfin, on est en face d'une espèce de honte de l'idéal qui m'avait fait rêver d'aller aux États-Unis, oui. Parce que finalement ce pays, il était extraordinaire dans la mesure où on avait le sentiment que tout le monde pouvait s'inventer ou se réinventer, oui. Là-bas, alors qu'aujourd'hui on est sous une espèce de chape d'ingérence, si je puis dire. C'est quand même incroyable d'avoir un gars dont on sait qu'il a dit 7000 mensonges l'année dernière, par exemple. À peine 5% de ce qu'il a dit est exact. Comment gérer ça? Alors du coup, ça se reproduit. Et même en France, les élus se gênent plus maintenant pour dire « Ah ben, c'est mon interprétation des choses. »
Vous y avez vécu 15 ans, Charles Alicoutia?
Oui, j'ai la double nationalité. Donc, et je vote, et d'ailleurs quand j'ai voté aux dernières élections, il est arrivé avec son gang d'autorité pour pousser tout le monde et faire reculer la queue.
Mais si on revient au départ, si on revient au moteur de votre exil, qu'est-ce qui en France vous freinait sur le plan personnel et sur le plan artistique en fait?
Mais en fait, la France est un pays qui te juge au passé, c'est-à-dire une des grosses différences entre la France et les États-Unis, c'est le sens du présent. Est-ce qu'on considère qu'aux États-Unis que le présent c'est la base du futur, oui. Donc ce qui compte c'est ce que tu vas faire, ou bien est-ce qu'on considère comme en France souvent que le présent c'est la conséquence du passé, c'est-à-dire c'est tout ce qui a été en amont qui t'amène à être ce que tu es aujourd'hui.
Comment ça s'explique ça?
Ben, c'est historique, les gens aussi se rassure en considérant que tu es l'aboutissement d'une expérience. Mmh. Alors qu'aux États-Unis, c'est finalement une espèce de projection tout le temps de soi vers le reste. Alors, comme les gens m'avaient connu comme étant chanteur, alors que c'était une seule des activités que je menais, ils m'analysaient, entre guillemets, ou ils me recevaient, ou ils m'expliquaient tout le temps à partir de ce côté chanteur. Et je me sentais un peu frustré dans toutes les autres activités que je mène, et c'est pour ça que j'ai eu le sentiment que l'endroit où j'aurais pu me reconstruire, où je l'ai fait d'ailleurs en partie, c'était New York.
On va toucher à tous les arts ce matin avec vous, Charles Elie. Mais quand même, ce qui est certain, la France, j'ai pas peur de le dire, quand vous êtes parti, elle se sentait un petit peu comme un avion sans aile.
Ah oui, facile.
Facile.
J'ai chanté toute la nuit. Et j'ai chanté pour celle qui m'a pas cru toute la nuit.
Cela dit, j'assume. Hein.
J'espère bien que vous assumez.
J'assume. C'est une chanson sur l'enthousiasme.
Mais c'est beau, surtout.
Mais c'est une chanson qui dit, en fait, tant que t'as le feu à l'intérieur de toi, même si les circonstances, même si les choses autour ne vont pas dans ton sens, fait que ça se passe. Et le gars, il chante alors que la fille l'écoute pas, alors que le tonnerre gronde, mais il n'y a pas d'éclair. Enfin bon, c'est... Donc c'est une chanson parmi toutes celles que j'ai écrites que j'ai toujours facile à chanter aujourd'hui parce que finalement elle est un peu en dehors des modes et des instants quoi.
Pierre revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Elle était sur l'album Poème Rock il y a 38 ans. Quand même, et j'utilise le mot album à dessein, Charles Elie. Diriez-vous par hasard que ce mot est démodé ou dépassé?
Un peu à l'évidence, oui, parce que il y a plus. On parle de maison de disque. Il y a ni la maison ni les disques aujourd'hui. C'est-à-dire, on enregistre plutôt une nouvelle playlist parce que finalement, le disque sort demain. Le disque, l'album, les 13 titres qu'on a enregistrés vont sortir demain, et dans quelques jours, des gens se suffiront de le streamer en virtualité.
C'est intéressant, n'empêche, qu'est-ce qu'on a perdu, à votre avis, Charles Elie Couture, avec cette évolution du mode d'écoute, et du mode de création de musique aussi, je suppose?
Aujourd'hui, on fait un usage de la musique, si tu veux. La musique, avant, c'était une espèce de dialogue entre une personne réellement existante avec une personne réellement existante, c'est-à-dire à la fois l'émetteur et le récepteur existaient. Et il s'établissait une espèce de relation d'amitié franche, entre guillemets. Hein. Quand on achetait un disque, on faisait un effort pour aller vers l'artiste. Et en échange de quoi, on avait l'impression qu'il y avait un lien qui s'était opéré. À partir du moment où on ne fait que consommer la musique dans sa grande virtualité, l'artiste lui-même, il disparaît. Et la seule chose que les gens utilisent, c'est le rythme soutenu de quelque chose qui va te mettre en branle ou qui va mais la présence entre guillemets ou disons cette relation qui existait via l'objet lui-même elle a un peu disparu.
Alors continuez à faire des albums comme vous le faites, c'est faire acte de résistance, de démocratie, Charles Elie Couture.
Disons qu'il y a des choses que je fais aujourd'hui que j'aurais pas pu faire hier dans le dernier album sorti il y a 3 ans et que j'avais enregistré en Louisiane, il y a un certain nombre de thèmes qu'il y a dans celui-ci, même pas Sommeil, que j'aurais pas osé aborder avec la même dureté, si je puis dire.
D'ailleurs, le titre, même pas Sommeil, nous emmène dans ce désir farouche de rester debout, de rester là, éveillé, coûte que coûte. Quand est-ce que vous avez compris, Charles Elie, qu'il n'était pas encore l'heure d'aller vous coucher, somme toute?
En fait, un jour précis où j'ai enterré à la fois Véronique Colucci et Jacques Higelin.
On s'en souvient de ce jour-là.
C'était, j'avais passé toute la journée avec la tristesse, si je puis dire, j'avais un concert le soir, je me retrouve à l'aéroport et je vois des gens qui riaient, la vie qui continuait. Je me dis, en fait, ils sont allés se coucher, la vie continue. Mais attends, si c'est comme ça, je sais qu'il y en a qui veulent que j'aille me coucher, mais moi j'ai pas, même pas sommeil. À la fois, c'est même pas peur de la mort, parce que j'arrive quand même à une période où chaque fois qu'on va voir le médecin, il y a du suspense.
Oh, ça va, Charles Elie.
Ben, ça va, et des fois ça va, oui. Et aujourd'hui ça va. Et mais donc et puis il y a aussi le fait que j'ai encore le sentiment de devoir dire des choses que je n'ai pas entendu dire ou pas de cette manière-là.
Qu'est-ce qui a disparu pour autant avec Véronique Colucci et Jacques Higelin?
Je ne sais pas. En ce qui me concerne, c'est des gens qui, à la fois, Higelin avait représenté une espèce de c'était un propulseur, Higelin, c'est-à-dire dans toute son indéfinition et dans son côté adolescent extrême, etc. Il amenait une chlorophylle, j'allais dire, oui. qui faisait du bien à une chanson qui était à ce moment-là encore un peu dans les normes des trois patriarches. Brassens s'est ferré, et là tout d'un coup il arrivait une autre ouverture. Donc Higelin, c'est ce que j'ai apprécié dans son espèce d'éclatement tous azimuts, et c'était stimulant. Et Véronique Colucci, ben, elle m'a effectivement permis de moi qui venais de la province de comprendre un peu mieux Paris dans tous ses secrets, dans toute sa vitesse. Et ainsi de suite. Donc, c'est des personnes qui comptaient dans ma vie, et tout d'un coup, boum, boum. Un peu comme quand Lou Reed est parti, tout d'un coup, c'était comme si on m'avait retiré un talon, quoi, tu vois.
Celle qui n'a pas de talon dans cette émission, mais qui a un talon d'Achille, ça je peux vous le dire, mon cher Charles Ali, elle se prend volontiers pour une voyante en se noyant dans le mar de café, c'est la culture. Et son actualité, boule de cristal cassée, ta romante répandue à l'ouest. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 24 juin? Janvier. Mangaka de force majeure, hier le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a remis son grand prix à la dessinatrice japonaise Rumiko Takahashi, légende du manga, auteur des séries cultes Ranma ½ ou Juliette Je t'aime, dont les adaptations ont fait les grandes heures du Club Dorothée. Rumiko Takahashi est la deuxième femme depuis la création du festival à recevoir le prestigieux prix. Autre excellente nouvelle, le festival a décerné un fauve d'honneur à l'immense Frank Miller, le sulfureux créateur de Sin City, qui sera notre invité demain dans Boomerang. Et ça c'est fou, c'est fou. Fou, c'est fiou-fiou. On plonge tête la première dans les Césars. L'Académie des Arts et Techniques du Cinéma a révélé hier la liste de nommés pour la 42e cérémonie. Les résultats, avec 10 nominations chacun, Le Grand Bain de Gilles Lelouch et Jusqu'à la Garde de Xavier Legrand partent grands favoris d'une compétition qui trouve un certain équilibre entre production populaire et cinéma d'auteur. Bien placé, bien nommé, on trouve aussi En Liberté de Pierre Salvadori, Les Frères Sisters de Jacques Audiard ou Le Très Beau, La Douleur d'Emmanuel Finquiel. Verdict le 22 février.
En 2009, plus de 400 personnes ont abandonné leur quotidien afin de s'immerger dans l'Union soviétique de 1938. L'expérience continue.
Pour Dao, embarquement imminent, expérience sulfureuse, expérimentale. Dao, le projet fou du réalisateur russe Ilya Xanovsky, s'installe aujourd'hui entre le Théâtre du Châtelet, le Théâtre de la Ville et le Centre Pompidou à Paris. À mi-chemin du cinéma réalité, du théâtre et de la vie surtout, l'œuvre propose une immersion dans un institut scientifique de l'URSS entre les années 30 et les années 60. On pourra notamment y croiser, comme ça, Massive Attack, Romeo Castellucci, Marina Abramovic ou Brian Eno. Go, go, go. Ça vous dit quelque chose? Le morceau s'appelle Cola Bottle Baby et vous l'aurez reconnu, il est à la base du tube des Daft Punk Harder, Better, Faster, Stronger. Le musicien qui l'a composé s'appelle Edwin Birdsong, il était un claviériste de génie et vient de mourir à l'âge de 77 ans. Musicien et producteur, donc Birdsong avait notamment collaboré avec Stevie Wonder et Roy Ayers. Avant les Daft Punk, sa musique avait été samplée par un autre groupe culte, De La Soul, pour le classique Me, Myself and I. Peace, Edwin. Et Charles Ali Couture, invité de Boomerang ce matin pour son nouvel album, on le disait, même pas sommeil. Et ce qui est passionnant, c'est que vous touchez à tout en fait. On le disait, peinture, photographie, dessin. Au sortir de l'adolescence, pour quelle raison est-ce que vous avez décidé de vous tourner vers les beaux-arts, tiens?
Ben, je voulais être metteur en scène de cinéma au départ, puisque ça m'aurait permis de réunir à la fois l'image, le texte et le son. Et donc je m'étais dit, je vais rentrer aux beaux-arts, comme ça je saurais dessiner. J'avais adoré les dessins d'Eisenstein. Einstein, par exemple, qui en quelques traits arrivait à évoquer des scènes qui, après, à l'écran, étaient gigantesques.
Alors, c'est comme ça qu'elle s'est dessinée, cette sensibilité aux arts?
Mais oui, puis aussi, je suis d'une famille de gens qui considéraient la culture comme quelque chose d'important. C'était, je sais qu'aujourd'hui, on confond souvent distraction et culture. Chez nous, il y avait une différence entre le fond et la forme, si tu veux. Et mon père avait fait des études d'architecture, interrompu par la Gestapo quand, aux côtés de Stéphane Hessel, il s'est fait arrêter, envoyé en camp de concentration. Quand il est revenu, il était trop faible pour finir sa dernière année d'architecture. Il est devenu professeur d'histoire de l'art aux Beaux-Arts à Nancy, puis antiquaire décorateur. Ma mère, elle, après la guerre, est allée enseigner le français aux États-Unis. Elle a fait l'école normale. Et donc, par ma mère, j'ai eu les mots. Par mon père, j'ai eu le rapport avec l'image. Et ma grand-mère, quant à elle, elle était prof de piano. Donc, ce qui fait que j'étais mis devant le piano comme une obligation.
Mais avec une famille comme ça, vos dessins d'enfants, ils ressemblaient à quoi ?
Oh ben, c'était en fait des dessins dans lesquels, à côté des dessins, il y avait une histoire. Ah. C'est comme si le dessin lui-même, il devait raconter quelque chose. Et dans mes premiers dessins, il y avait à côté, c'est un cowboy qui essaye de trouver son chemin parmi les Indiens.
N'empêche, ça n'a pas beaucoup changé, puisque dans La mécanique du ciel, un recueil qui paraîtra courant février, Charles-Élie Couture, dans la belle maison d'édition Le Castor Astral, on découvre certains dessins et textes inédits justement, et notamment un texte sur le dessin, que je vais lire quand même.
Ah, s'il te plaît.
Dessiner, c'est improviser, une caresse dans l'urgence, un courant d'humeur transparente ou précise, comme une évasion, une pulsion, une envie instantanée, une intention sans préméditation, comme on parle avant d'avoir pensé, comme on raconte un rêve qu'on n'a pas compris, dessin dégainé plus vite que leur ombre, dessin semi-automatique. Ah donc, je pensais à ça. A-t-on besoin de penser pour dessiner? Un dessin ne demande rien, il se fait naturellement, comme s'il existait déjà avant d'être là. Il y a quelque chose à la fois de léger et d'essentiel dans le fait de dessiner, cela ou d'autres, qu'à cela ne tienne, dessiner dans le sable que la vague effacera et redessiner de nouveau pour faire parler le silence entre les fibres du papier. Charles-Élie Couture, de quel silence est-ce que vous parlez là ?
En fait, l'écriture, c'est une espèce de dialogue avec soi-même, quoi. Quand on a un interlocuteur, on tient compte de ses regards, on tient compte de ses remarques. Mais quand on écrit, c'est comme quand on peint, quoi. Pour moi, si tu veux, le lien dans les différentes activités que je mène, non pas touche à tout comme ce que tu as évoqué, mais plutôt comme un triathlète, si tu veux, qui se donne autant dans l'eau sur sa bicyclette et quand il court, même s'il n'y a aucun rapport dans les différents gestes, et il se doit d'être engagé avec autant
de conviction. J'ai l'impression qu'il y a des rapports, pourtant, moi, quand vous en parlez, ça se ressemble.
C'est vrai, et le rapport, je l'ai compris grâce à ce livre, La mécanique du ciel, c'est la poésie. Et la poésie, mais dans le sens grec du terme, poéin, qui veut dire faire,
la
agir,
création.
Fabriquer. Mmh. C'est pas la poésie, c'est pas une méditation transcendantale. Mmh. Non, c'est le fait d'agir, d'intervenir sur son propre monde.
De quelle aide est-ce qu'ils vous sont, les mots, alors ?
Mais c'est comme si tu veux, pour savoir qui on est, il faut savoir à quel moment tu deviens fou. C'est-à-dire à quel moment tu arrives à oublier qui tu es, disons, la forme de ta conscience, pour laisser parler ton subconscient. Et les mots, comme je les pratique dans ce type d'écriture, ils me viennent comme les couleurs que je ne réfléchis pas. Et rarement, je sais quand je commence un tableau ou une œuvre quelle qu'elle soit, à quoi elle va ressembler.
Ah, c'est vrai.
Le disque, quand je l'ai commencé il y a 2 ans et demi, il ressemblait pas du tout à ça. Hein. C'était pas du tout ça. Et puis, à un moment donné, il prend son rythme et puis c'est lui qui te drive. Une œuvre, elle doit prendre le pas sur... C'est comme un écrivain, il connaît la première phrase et après il suit, il court derrière ses mots.
Comment on sait, Charles-Élie Couture, quand c'est terminé, quand la chanson est achevée, quand le poème est terminé?
C'est vrai que des fois tu sais pas. Et il y a des fois des trucs sur lesquels tu reviens, et des œuvres sur lesquelles je suis revenu des années. Et à un moment donné, tu as l'impression d'avoir que le plat est cuit, quoi. Il y a quand même un moment donné, il faut le servir. Mais ce qu'il faut aimer quand on fait, c'est aimer faire la cuisine, quoi. C'est tout. Après, c'est pas l'appétit des invités. Tu peux pas intervenir dessus. Donc, tu sais jamais comment ce que tu fais va être reçu. Ce qu'il faut, c'est aimer faire, aimer pédaler si tu fais du vélo, tu vois. Gagner la course ou la perdre, ça dépend pas de toi, quoi.
Mais pour vous, qu'est-ce que c'est une bonne chanson ?
Ben, une bonne chanson, c'est une chanson qui est cohérente avec son époque et que je vais pouvoir, que je vais avoir du plaisir à faire vivre sur scène, par exemple, et à partager avec les gens.
On va la partager alors ensemble. On va continuer à parler de texte aussi. Okay. De mots, de mélodies, juste après le dernier extrait de votre prochain album, Même pas sommeil, ça s'appelle Seul et unique. Vous êtes sur France Inter avec Charles-Élie Couture. Vous écoutez Boomerang, on est jeudi.
Un seul amour, une seule vie. Seul et unique. Bien sûr, je sais qu'on parle toujours. Seul et unique. Un seul amour, une seule vie. Seul et unique. Comme un ultime espoir, un absolu. Mystique. N'y a-t-il vraiment qu'un seul Dieu? À l'Olympe des cieux. Une seule option, une seule manière. Une seule lumière qui nous éclaire. Un seul amour, une seule vie. Ce serait plus simple et plus facile aussi. Mais toutes les pensées uniques. On connaît le danger de l'ennui. Le monde tourne sur lui-même, comme une toupie à l'infini. Les êtres vivants et la nature évoluent aussi. Un seul amour, une seule vie, seul et unique. Comment imagines-tu cet exclu, seul et unique. Un seul métier, un seul ami, une seule bouteille à la mer. Un seul pays, un seul chemin. Une seule couleur, un seul destin.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Ça, c'est certain qu'il n'y en a pas deux comme lui. Hein. Il en vit quelque part entre Georges Perec, mon cousin branché, et le berger, avec sa barbichette sur laquelle on se risquera pas de tirer, son crâne nu et doux, comme une pleine lune, son air de bandit de grand chemin au grand cœur, avec ses tatouages qu'il a lui-même dessinés, et dont il me disait que plus un tatouage a l'air méchant, plus la personne est gentille. Ces tatouages font très très peur. L'artiste et musicien Charles-Élie Couture, invité de Boomerang ce matin, et j'aimerais qu'on revienne un peu à la musique. Charles-Élie, dans 50, qui est un texte publié dans ce recueil de poèmes inchantables, ouais. La mécanique du ciel, vous parlez de votre grand-mère, qui un jour vous a installé devant le clavier de son piano. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ?
Disons, en fait, ma grand-mère était une vraie mélomane. Elle aimait la musique et elle écoutait France Musique avec les partitions sur les genoux. Quoi. Et donc, je pense qu'elle avait envie de partager ça avec nous. Elle m'a souvent, quand j'étais face à des musiques d'art contemporaines, comme tous les enfants, j'étais un peu choqué par le truc. Elle m'a dit, mais à la limite, tu dis que tu aimes pas, mais dis plutôt que tu comprends pas. Mais, et donc j'ai été élevé comme ça. Quoi.
Mais petit, quand vous vous retrouvez devant le clavier, quand elle vous met devant le clavier, qu'est-ce qui se passe?
Comme tout le monde, je merde. et pour moi, la pratique du piano est une obligation. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je dois faire, comme un fils d'ingénieur se doit de faire de la mathématique. Moi, je devais faire ma demi-heure, mes trois quarts d'heure de piano tous les jours. Mais à la différence des rigoureux autoritaires, elle, quand elle voyait que je me mettais à improviser autour de thèmes classiques, elle me laissait faire et ça l'amusait plus qu'autre chose. Parce qu'elle, par contre, elle n'avait absolument pas le sens de l'improvisation. Comme tous les musiciens classiques, elle était vraiment dans les rails. Et si elle n'avait pas la partition, ça ne marchait pas. Quoi.
Mais enfin, dites-moi, de quel œil est-ce qu'elle vous a vu vous tourner vers la guitare, vers des musiques comme le blues, par exemple?
Le blues, c'est plus avec les 30 cm que ma mère avait ramené des États-Unis, tous les Negro Spirituals et toute cette musique-là qu'elle avait ramenée. Moi, j'écoutais ça, c'était ma musique à la maison, quoi, si tu veux. Et la guitare, j'y suis venu parce que c'était plus facile pour draguer autour des feux de camp. Un piano, il n'y en a pas partout, alors que la guitare, c'était là. Et je compose pas les mêmes morceaux sur les mêmes instruments. Sur le piano, c'est plutôt des trucs harmonieux ou je sais pas quoi, alors que à la guitare, ça va être plutôt quelque chose de rythmé, des itératifs.
Je parle sous le contrôle, quoi. Mais j'ai l'impression que le blues, pour le coup, il est très présent dans Même pas sommeil, notamment dans un titre qui s'appelle Another Man Blues.
Ah ouais,
qu'est-ce qu'il raconte, ce titre, pour vous?
C'est carrément une histoire de bavure policière, puisque c'est un mec qui est dans sa bagnole et il a le casque sur les oreilles, il n'entend pas les flics et il se prend 10 balles dans la tête. C'est en fait une reprise et une réécriture d'un blues traditionnel qui s'appelle Another Man Done Gone, qui évoquait une pendaison. Mais en fait, aujourd'hui, ça se passe au quotidien. Aux États-Unis, tu sais, quand ils tirent, c'est pour tuer. Il ne tire pas pour blesser. C'est une quasi-idée, une obligation. Tu tires, tu tues. Et t'as un pauvre mec qui est là. Cette année, je crois qu'il y en a eu 32, 35, je sais pas quoi, des gens dans leur jardin qui... ou ci ou ça.
On sent que les États-Unis, Charles Élie Couture, font vraiment partie de votre histoire familiale aussi. Votre mère, vous l'avez évoqué, a également vécu là-bas. Dans quelles circonstances?
Je te dis, après la guerre, ma mère est partie enseigner le français à Kenosha, dans le Wisconsin, et aussi en Alabama. Et du coup, c'est rigolo parce que je discutais souvent en anglais avec ma mère à la cuisine, et donc l'anglais était un peu ma langue familiale, ma langue maternelle. Et c'est seulement en revenant des États-Unis, j'ai souvent fait des choses avec les anglais, puisque ma première maison de disques, c'était Island Record. Oui. Et donc, mais c'est seulement après que je me suis rendu compte que ma mère avait un accent français, mais à tuer, quoi. Mais je l'entendais pas quand j'étais petit. Pour moi, elle parlait super bien.
Elle a quelque chose à voir, pour autant, avec votre goût pour la musique américaine, peut-être?
Ah ouais, sûrement, parce que je me suis... Tu vois, dans Le Seul et Unique, j'évoque le confort qu'il y a dans la chose simple et unique. Alors qu'en fait, j'ai un prénom qui est double, Charles et Élie. J'ai une culture que je considère comme double, à la fois très influencée par ce que les États-Unis m'avaient donné avant que j'aille le comparer avec ma culture française, enfin, etc. Et je me suis toujours construit comme ça, dans une espèce d'ambivalence,
et vous l'avez collé,
de dualité.
Charles Élie, vous l'avez collé, vous en avez fait un seul mot.
Mais c'est ça l'histoire, c'est qu'on est dans un monde métisse. C'est ça. Aujourd'hui, il est impossible, l'absurde de l'unicité est lié à une espèce de fantasme qui n'a aucune raison, car immanquablement, et la force des races entre guillemets, c'est justement d'associer leur complexité. C'est plus quelque chose est complexe, plus c'est intéressant d'ailleurs, et plus ça tiendra longtemps, quoi.
Vous avez beaucoup changé, Charles Elie Couture.
Oui, parce que j'attends plus rien de rien. Hein, donc, je me fixe plus des objectifs. Je prends ce qui m'arrive, et ça a changé. Quand j'ai vu mes enfants grandir, je suis heureux de ce qui leur arrive, encore presque plus que ce qui m'arrive à moi. Mais ça a changé, oui. Et puis le fait, tu vois, d'avoir vécu aux États-Unis pendant 15 ans, ça a supprimé ce blur, ce voile d'idéal. Ailleurs, c'est mieux. Ici, c'est moins bien, par exemple.
Ça a fait changer. C'est une chanson qui s'appelle « Je n'ai pas changé » que vous allez interpréter ce matin au clavier. Une chanson de Julio Iglesias. C'est la première fois que Julio s'invite dans cette émission. Ça nous ravit. Parce que moi, je peux vous dire, je l'ai beaucoup chanté dans mes trajets pour aller en Auvergne avec mes parents. Cela dit, il paraît que vous avez un petit peu changé les paroles.
Ah, tu vas voir.
Qu'on prévienne les auditeurs quand même.
Non, j'ai pas changé. Je me sens toujours étranger. Chez toi qui m'invitais le dimanche pour te chanter des romances qui te faisait voyager. Non, j'ai pas changé. Je me sens toujours aussi fou. Moi qui rêvais d'Amérique, mais qui gagnais pas assez de fric pour t'emmener même n'importe où, voire à Corfou. Non, toi non plus, t'as pas changé. Je reconnais ton parfum léger. Et puis aussi ton petit sourire qui en dit long sans vraiment tout dire. Ni toi ni moi on a échangé. Dire qu'on voulait se protéger, toi qui voulais me retenir et moi qui voulais t'appartenir. J'ai pas changé. Je suis toujours le même. À t'écrire des poèmes qui commencent par je t'aime et qui finissent idem. Non, j'ai pas changé. Je suis toujours le même chemin. Ce chemin sur la terre qui a vraiment su me plaire quand on le suivait main dans la main. Toi non plus, t'as pas changé. Je reconnais ton parfum léger. Et puis aussi ton petit sourire qui en dit long sans vraiment tout dire. Ni toi ni moi, on a changé. Dire qu'on voulait se protéger. Toi qui parlais d'avenir et moi qui ne cessait d'aller et venir. Non, j'ai pas changé. C'est le monde qui a changé.
Wow. Charles Ali Couture qui reprend à sa façon « Je n'ai pas changé ». Torolio Ecclésias, c'est dans Boomerang. Quelle question. Merci infiniment, Charles Ali, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que même pas sommeil, votre nouveau disque sort demain, que La mécanique du ciel aux éditions du Castor Astral sortira à la Saint-Valentin et que le musée Paul Valéry de Sète vous consacrera une exposition du 15 février au 28 avril. Vous serez également en concert dans toute la France à partir du 14 mars, d'Audincourt à Avignon, en passant par Plougastel, Marciac, Grande-Synthe, sans oublier un Trianon le 12 avril, et tout de suite, c'est l'heure des médias, mon cher Charles Ely, avec Sonia, qui m'entend, j'espère.
On est là, Augustin, on est là, rassurez-vous, on est là.
À demain. Je suis rassuré, à demain avec vous.